Donc bonjour, nous sommes le mercredi 31 janvier 2024, vous êtes bien sur la radio Maï du collège Maï à Patou en Guyane française. Je suis DJ Chacal, votre humble serviteur. Donc pourquoi est-ce qu'on prend l'antenne le mercredi après-midi? C'est exceptionnel, c'est parce que ce vendredi, nous rappelons qu'il y a le Forum des métiers édition 2 au collège Maï à Patou. Donc le but de cette émission, c'est surtout de présenter des capsules vidéo disponibles sur le site de l'ONICEP pour que les élèves qui n'auraient pas pu voir tout ce qu'ils voudraient voir ou qui auraient envie de s'ouvrir les chakras, comme on dit, puissent aller écouter la radio et écouter les différents métiers. Donc ce podcast passera et repassera suivant les besoins, soit cette année ou même l'année prochaine. Au moins, c'est là, c'est là. Donc pour commencer déjà, petite précision, donc il y a l'entreprise YouCan qui devait venir et qui nous propose finalement des podcasts vidéo en capsule. Donc ça, je mettrai le lien sur des tablettes. Donc les élèves qui ont rendez-vous avec YouCan, Y-O-O-K-A-N, eh bien, ben, ils seront quand même quelque chose à voir, découvrir des métiers. Donc moi, je suis allé sur leur site, hein, pour voir de quoi ils parlaient. Eh bien, YouCan présente les secteurs des métiers en tension en 2023. Donc eux, en général, ils viennent avec un casque de réalité virtuelle où les élèves sont immergés, c'est comme s'ils étaient dans une vraie entreprise, ils voient autour d'eux ce qui se passe. Donc les métiers en tension en 2023, c'est la sécurité, transport et logistique, hôtellerie, café et restauration, numérique, BTP, santé sociale et industrie. Donc dans les simulateurs que proposait YouCan, bon, en espérant que l'année prochaine, en 2025, ils reviendront pour nos troisièmes, qui sont actuellement en quatrième. Il y avait comme simulateur pilotage de grue à Tours, donc j'imagine que la personne était à l'intérieur de, d'une grue et devait piloter, tirer des trucs, c'était vraiment génial ça. Pilotage de camion ou bus, peinture industrielle, carrosserie, poste de soudure industrielle, extincteur d'incendie, premier secours. Et après, il y avait même des vidéos à 360 degrés où on voit, il suffit de se tourner autour de soi pour voir tout un univers comme si on y était en fait. Sécurité, transport logistique, hôtel, café, restauration, donc cuisinier, sommelier, serveur en restauration, restauration collective, management ou service en hôtel avec SPA. BTP, donc nous en Guyane, vraiment le BTP, c'est le secteur qui recrute à donf. Hein. Vous voulez un job, vous bossez dans le BTP, vous ne chômez pas en Guyane. Hein. Donc maçon-coffreur, décorateur, menuisier, rénovation peinture, travaux publics, bâtiments et construction, les métiers des équipements thermiques et climatiques, maintenance d'engins de chantier. Après, il y avait santé sociale, numérique, industrie. Donc, je ne détaille pas. Et de toute façon, les élèves qui seront intéressés le verront en salle SECPA 2. Hein. C'est là-bas que sera installé le matériel. 12 tablettes. Et sur chaque tablette, ils pourront regarder les capsules, des mini-capsules de 1 à 2 minutes. Hein. Donc, ça, c'est mon job de cet après-midi. Ma mission, c'est d'arriver à faire ça. Donc, en avant, on commence tout de suite par les présentations des métiers. Donc, je vous propose déjà de découvrir les métiers autour de l'agriculture. Donc, si un élève souhaite le faire lui-même, il va sur Google, il tape ONICEP. Après, il fait un espace et il tape agriculture. Ça lui permet d'avoir des vidéos. Donc après, il peut choisir. Donc moi, par exemple, je cherche formation parce que nos élèves ne cherchent pas un métier à ce stade de leur parcours de scolarité. Ils cherchent des formations. Donc quand je tape formation, on vous dit du CAP agricole au diplôme d'ingénieur en agronomie, l'enseignement agricole offre toute une palette de formations. Je rappelle qu'il y a le lycée de Matiti à Makouria qui propose des formations autour de l'agriculture. Ou comme la MFR aussi propose ici à Patou. Hein. Au programme des spécialisations dans les cultures, l'élevage, la forêt, l'agroéquipement, le conseil, la commercialisation ou la recherche. La pratique sur le terrain y occupe une place centrale. Donc, on écoute la première vidéo. Hop, il y a marqué 11 047. Non, 2 minutes, ça va.
Bienvenue en CAP, métier de l'agriculture. Voici Jessie.
Et voici Viviane.
Dans ce CAP, on apprend à s'occuper d'un élevage.
On apprend à travailler les champs pour nourrir le troupeau et à utiliser différents matériels sur une exploitation.
Notre centre de formation est spécialisé dans les cultures et l'élevage. Ici, on apprend à élever des bovins et des porcs. On apprend à nourrir un troupeau, à suivre la reproduction des animaux, aider aux mises bas et donner le soin aux nouveau-nés. En CAP, on surveille l'état du troupeau. On doit être capable de repérer un animal qui ne va pas bien. On enregistre les informations pour informer notre responsable.
Dans cette formation, on apprend à mettre en place différents types de cultures.
Donc dans la vidéo, on voit de gros tracteurs.
On réalise les semis, on entretient les cultures, puis on réalise les récoltes. Les cultures permettront ensuite de nourrir le troupeau pendant l'hiver.
Bienvenue dans l'atelier. C'est ici qu'on répare et qu'on entretient les équipements. Dans une exploitation, il y en a beaucoup des équipements.
Donc il y a même des femmes dans l'agriculture, hein, et pas de machisme.
faire ce CAP, il faut aimer les animaux et avoir le sens de l'observation pour détecter quand une bête a besoin de soins.
Il faut aimer bouger, avoir une bonne condition physique et savoir prendre des initiatives.
Donc c'est pour les gens qui sont actifs. Hein. Quand on bosse dans l'agriculture, il faut aimer bouger. Hein.
Après le CAP, on peut travailler comme salarié agricole sur une exploitation.
Les débouchés.
On peut aussi poursuivre en bac pro ou en brevet professionnel.
Donc nous rappelons à nos troisièmes qui peuvent très bien choisir de s'orienter en CAP. Il n'y a pas que le bac général ou le bac technologie. Hein. Donc ça c'est fait, première vidéo. Hop, après, il est possible de voir d'autres vidéos. Donc ça, ceux qui viendront en salle pourront voir ces vidéos aussi. Hein. Bac pro, production horticole. Camille, jeune diplômé ingénieur en agriculture, nous parle de son métier. Mais ingénieur, c'est beaucoup plus haut, hein, ça bac plus 5. Et on a une vidéo sur le bac pro agroéquipement. 4 minutes de... Donc ça c'est le métier de l'agriculture, donc je fais un petit résumé pour nos élèves et après on passe au métier d'artiste. Donc certains généralistes visent la polyvalence, donc en fait du BTSA, donc BTS et Bac plus 2, on peut approfondir dans la gestion d'entreprise quand on choisit l'agriculture. Donc on peut travailler sur la gestion d'une entreprise agricole, donc il y a le CAP agricole métier d'agriculture, le CAP agricole agriculture des régions chaudes. Donc nous ici, on est bien vraiment dans une région chaude. Bac pro, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Brevet professionnel, responsable d'entreprise agricole ou BTSA, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Donc on peut avoir une entreprise agricole et avoir des compétences autour du métier de gestion d'entreprise. D'autres sont centrés sur un type de culture. Donc bac pro, conduite de production horticole, donc arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes, par exemple. La conduite de l'élevage, bah donc plutôt les animaux, hein. Les techniques forestières, donc CAP agricole, travaux forestiers. La mécanique agricole, donc bac pro maintenance des matériels, option matériel agricole. La nature, donc bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. Ou les services, bac pro services aux personnes et animation dans les territoires. Et ce bac pro, je pense qu'on peut le préparer en passant par la MFR. À noter, pour obtenir les aides à l'installation comme un jeune agriculteur, donc vous avez des aides hein, si vous voulez devenir agriculteur, on ne vous laisse pas partir de rien comme ça. Il faut être titulaire de la capacité professionnelle, donc du CAP, et d'avoir aussi un bac. Donc une fois le niveau bac plus 2, on peut avoir un peu plus pour pouvoir aborder un projet d'installation avec plus de maturité et de pratique. Donc en fait, vous avez des aides si votre projet est sérieux et que vous avez dépassé le niveau bac. Donc au moins, il faut se motiver. Donc pour nos élèves de 3e, c'est le plus important à retenir. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des indicateurs par rapport au fait de faire des formations à bac plus 3 ou bac plus 5. Donc hop, première émission passée. Il faut que je trouve un jingle entre les deux là. Voilà, c'est magique. Allez, on passe au métier d'artiste. Donc je reviens, donc je tape Onicep, artiste. Tac. Onicep, artiste. Donc les métiers dans les emplois dans l'art et le design. Donc artiste, art et design. Donc on écoute la vidéo. Il y a 8 vidéos disponibles. Et je pense que la première, c'est design fiche secteur. Le métier du design. Waouh. Designer, architecte d'intérieur. Donc on voit le métier d'artiste plasticien.
Je suis artiste plasticienne. Moi, je réalise des sculptures avec Paul.
C'est créer des volumes, des sculptures qui sortent un peu de notre imaginaire.
Pour moi, ça représente travailler avec ses mains, construire les choses qu'on a dans la tête.
C'est moins un métier qu'une sorte de vocation ou d'envie, en fait.
Je pense que je pourrais pas faire autre chose.
On a la chance d'être deux, donc on peut facilement se répartir les tâches.
Paul, c'est celui qui dessine. On passe forcément par la maquette, par tout ce qu'il faut pour ensuite arriver au volume.
Des vis là, et puis on va remettre celles qui sont là en remplaçant celles-là. Et l'autre, elle viendra se mettre dedans, je pense.
Ça va être une mâchoire de monstre. Ce sera suspendu sur des poutres en métal. Faut que ça tienne, parce que sinon, les gens seront écrasés, quoi.
Donc on voit une grosse œuvre d'art, on dirait un gros poisson.
Là, ils sont parallèles.
Ok.
Être artiste, je pense que c'est une question d'intuition.
Il faut de la persévérance.
Être réactif et savoir adapter ce qu'on propose. Faire en sorte que ce soit le plus impressionnant possible.
Comment l'inspiration, ça vient aussi de ce qu'on voit tout le temps dans la rue. On est toujours en fait dans un processus de réflexion.
C'est difficile, mais quand on arrive à quelque chose et qu'on trouve que ça marche, oui, c'est très satisfaisant. Ouais.
On a été exposé dans des vitrines ou alors dans des expositions collectives avec d'autres artistes qui peuvent animer des objets, faire de la performance, faire de la projection numérique.
Quand on peut en vivre et gagner de l'argent avec, on saisit l'occasion et on fait en sorte que ça marche. Mais à côté de ça, on veut d'abord être libre de toute contrainte financière. Donc moi, à côté de ça, je travaille en freelance en tant que graphiste.
On n'a pas de patron et on doit tout seul aussi se débrouiller pour trouver des subventions. Et il va bien falloir les vendre, ces pièces.
Un conseil que moi j'aurais, c'est peut-être aussi de savoir ce que c'est que la réalité d'être artiste, c'est-à-dire que c'est loin d'être du showbiz, de la gloire, c'est aussi beaucoup, beaucoup de remise en question, beaucoup de vrai travail.
En fait, si c'est pas un métier, c'est du travail.
Donc, on vient de voir le métier d'artiste plasticien. Donc, affiliés à la Maison des Artistes, les peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, dessinateurs, graveurs, céramistes vivent de la vente de leurs œuvres, de leurs prestations artistiques et de la perception des droits d'auteur. Certains plasticiens sont accueillis en résidence, au sein d'écoles ou de structures artistiques. Être en résidence, ça veut dire qu'on est accueilli, mais ce n'est pas l'endroit où on vit, où on bosse tout le temps. Ils bénéficient alors pendant plusieurs mois d'une bourse et d'un espace de travail, un atelier. À la différence de l'artiste qui est libre de son expression, le designer crée sur commande. Il doit s'adapter à la demande du client en respectant un cahier des charges, donc des contraintes techniques d'usage et de coût. Ça, c'est ce qu'on voit en technologie avec les élèves en 4e et en 3e. Voilà. On va passer au 3e atelier. Donc, maintenant, le bâtiment et l'urbanisme. Allez, la liste est longue, c'est pour ça que j'essaie de faire court à chaque fois. Donc, je tape ONICEP, bâtiment, urbanisme. Urbanisme. Voilà, ça c'est fait. On va voir ce qu'il me propose. Donc, les métiers et l'emploi dans l'architecture, l'urbanisme. Donc, partout, le territoire évolue en se complexifiant. Derrière ces mutations, des architectes, des urbanistes et des paysagistes qui utilisent leurs compétences en sachant dialoguer avec de nombreux partenaires. L'état des lieux, des métiers et de l'emploi. Donc, il y a 11 vidéos disponibles. Nous, on va regarder la première. Deux secondes. Elle nous parle de gérant d'entreprise d'aménagement paysager.
J'ai commencé par un BEP aménagement paysager qui existait encore à l'époque. J'ai tout fait en apprentissage, donc sur le terrain. Donc le BEP en apprentissage, j'ai fait le bac pro, pareil, aménagement paysager en apprentissage, et le BTS, aménagement paysager, pareil, en apprentissage. Et suite à ça, je me suis installé quasiment tout de suite, après.
Donc on le voit en train de labourer.
Donc on va voir les clients, ça peut être particulier, mairie ou entreprise. Après, suivant leur demande, on réalise des devis. Après, plusieurs types de clients. Imaginons, on a un client qui veut un projet, qui a un investissement conséquent à faire, avec vraiment le réaménagement de tout son jardin, ou une entreprise, ou une mairie d'ailleurs. S'il y a besoin de faire des plans, on travaille à ce moment avec une personne qui fait que des plans, qui se rapproche plus, donc, comme on dit, d'un paysagiste, et non pas d'un entrepreneur paysagiste. Et après, donc, par rapport à ces plans, nous, on va réaliser les travaux chez les gens ou dans une entreprise, voilà. Après, il y a aussi la partie du métier qui est l'entretien des espaces verts. Donc ça, on va dire que c'est notre fonds de roulement. On a une clientèle en entretien avec des contrats du type contrat annuel et des personnes chez qui on intervient pour faire soit l'entretien complet du jardin, c'est-à-dire taille, tonte, désherbage, on prend en charge la totalité du jardin. Soit il y a d'autres personnes où on prend partiellement, ça va être par exemple la tonte uniquement, sans taille, ou après ça peut être ponctuel, voilà. Donc ça, c'est notre fonds de roulement, on va dire.
Le rôle de gérant.
Mon rôle à moi, donc c'est déjà donc c'est la démarche clientèle, donc d'aller voir le client, après de réaliser le devis, planifier les travaux, coordonner les travaux, les approvisionnements sur chantier, la gestion de l'entreprise, toute la gestion administrative, les fournisseurs, la recherche de matériaux, tout voilà, c'est global quoi. Dans ma profession, ce qui me plaît le plus, moi, c'est la, on va dire, la construction, entre guillemets, d'un jardin, d'un aménagement extérieur. C'est-à-dire qu'on vient, il n'y a rien, on repart, tout est fait, quoi. Donc, que ce soit en minéral, quand je dis minéral, ça va être tout ce qui est entrée de garage, terrasse, murette, pas japonais, petit massif avec des graviers, ou végétal, donc plantation, massif, engazonnement, toutes ces choses-là. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est très valorisant. Voilà. De partir, on laisse une trace, en fait, on revient deux ans après, bon voilà, tout a changé, c'est resté là. C'est un peu comme le maçon qui va construire une maison un petit peu originale. Voilà, ça laisse des traces. Quoi.
Donc, vous venez de découvrir le métier de paysagiste. Donc, ensuite, on propose aux élèves des informations autour des métiers du bien-être et de l'esthétique. Donc, je tape ONICEP, bien-être, esthétique. Bien-être. Être bien, quoi. Esthétique. Hop, voyons ce que ça nous donne. Donc, esthéticien, cosméticien. On est parti. Donc, épilation, gommage, massage du visage, modelage du corps. L'esthéticienne est la spécialiste du soin et de la mise en beauté. un métier en contact direct avec la clientèle qui exige d'être d'être aimable, donc l'amabilité, le doigté, donc être précis, et des aptitudes commerciales. Bah, si quelqu'un est chauve, vous aurez du mal à lui proposer un brushing, quoi. Allez, qu'est-ce que je vois dans le métier ? On y va, esthéticien, esthéticienne, c'est parti, bonne écoute.
Qu'est-ce que l'esthétique cosmétique ? Un métier au poil. Les esthéticiens et esthéticiennes sont les spécialistes de la mise en beauté. Ils prodiguent soins du visage et du corps en sélectionnant les produits cosmétiques adaptés à chaque type de peau. Outre les soins traditionnels tels que gommage, épilation, massage du visage ou modelage du corps, ils maîtrisent de nouvelles techniques comme l'enveloppement ou la balnéo-esthétique. À l'écoute des envies de la clientèle, ces spécialistes donnent aussi des conseils d'utilisation des produits de soins ou de maquillage. On fait peau neuve ! Délicatesse, sens esthétique et qualité d'écoute sont les principales qualités attendues. Wow. Une présentation soignée et une hygiène stricte sont également indispensables. Outre les outils classiques tels que pinceau, lime et pince à épiler, les professionnels de l'esthétique utilisent également divers appareils pour réaliser des soins de plus en plus perfectionnés. La station debout étant la règle, une bonne résistance physique est un atout. Ce métier s'exerce en institut de beauté, en parfumerie, dans les salons de coiffure ou encore à domicile. Avec l'essor des établissements de soins, on trouve des postes dans les centres de remise en forme, de thalassothérapie ou de balnéothérapie.
Après, je suis pas sûr qu'il y ait des centres comme ça, pas tout, mais justement, c'est l'occasion de créer de l'activité dans le village. Hein.
Le salaire de début est le SMIC. Les profils polyvalents maîtrisant plusieurs techniques sont appréciés des recruteurs. La mobilité géographique est un facteur important pour trouver du travail. Avec de l'expérience, les esthéticiens ont la possibilité de créer leur propre institut. Ils peuvent aussi s'orienter vers le métier de démonstrateur de produits de beauté ou se spécialiser en socio-esthétique. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un diplôme du CAP au BTS. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.
Bon, nous venons de découvrir le métier d'esthéticienne. Ensuite, droit et finance. Donc, je tape ONICEP, droit et finance. On va voir ce que ça donne. On propose master mention droit et bancaire et financier. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller loin. Droit et finance, bac plus 5. Hein. Si vous savez que vous voulez arrêter tout de suite, si vous voulez arrêter avant 18 ans, ce ne sera pas le métier à choisir. Donc par contre, je n'ai pas de vidéo. Donc, diplôme national d'État, la formation, où se former. Donc attendez, je regarde un peu plus, voir plus. Lire l'article sur le master. Donc est-ce que j'ai une vidéo à vous proposer ? Non, je n'en ai pas. Donc c'est à moi de lire. Donc on écoute. Le master est un diplôme en 2 ans après la licence. L'accès en première année M1 est de droit dans les mentions compatibles avec la licence qu'on a obtenue. L'État français a protégé l'usage du mot master. Il est donc réservé au DNM, diplôme national du master, et ne peut être utilisé pour une autre formation. Donc voilà, après, là c'est le nom de master général, mais en fait pour celui qui est lié au droit bancaire et financier, donc c'est-à-dire que quand vous ferez des études, après une licence de droit ou une licence de finance, vous pourrez passer dans un master en droit et finance. Donc j'espère que les intervenants auront des choses à dire aux élèves pour les motiver à aller plus loin que le bac, parce que ça suppose d'aller en métropole. Hein. Alors, peut-être que la formation existe en Guyane, je ne m'avance pas trop. Allez, le métier d'éducateur sportif. Ah, j'ai oublié de mettre la petite... Voilà, éducateur sportif. Donc, le métier d'éducateur sportif. Tennis, gymnastique, football, judo, boxe, roller, escalade ou multisport, l'éducateur sportif initie ou entraîne des publics variés, jeunes, adultes, seniors, dans une ou plusieurs disciplines, en adaptant ses cours pour une bonne progression. Salaire au début, 1 767 €. Hein, ça commence pas mal. Hein. Allez, on écoute la petite vidéo de monitrice de VTT.
Je suis monitrice de VTT, j'ai 27 ans. Je pratique le métier de monitrice VTT de façon professionnelle depuis 3 ans. Mon métier consiste à encadrer tout type de public pour les rendre plus autonomes, dans des durées de temps variables, 2 heures, une demi-journée, une journée. Ça se passe à travers des randonnées et des ateliers techniques qui ont pour but donc d'apprendre des nouveaux gestes et d'aider les publics à se perfectionner. Pour la plupart des moniteurs, monitrices de VTT sont des indépendants. Ce qui veut dire qu'une journée, ça commence déjà par du relationnel avec le client, des coups de téléphone, des mails, où on organise la journée pour que ça corresponde bien aux attentes de la personne. Ensuite, on a une phase souvent de repérage. Quel parcours on va faire, combien de temps, combien de kilomètres. Et au moment où le client arrive, on présente notre programme.
Aujourd'hui, on fait une petite séance sur le franchissement de racines.
Une séance, ça commence toujours par vérifier le matériel. L'état du casque, son réglage, l'état du vélo. L'idée, c'est de rendre le public plus autonome, qu'il soit capable de détecter s'il peut partir avec un vélo et être en sécurité ou non. Et ensuite, on part donc dans notre cœur de séance, que ce soit une randonnée, une séance technique. Aujourd'hui, avec les jeunes du club, on va travailler des changements d'allure et le passage de racines. On va déjà mettre ça en pratique sur un terrain plat. On va parler un petit peu de la technique pour aborder les racines. Et ensuite, on ira le mettre en pratique sur le terrain, dans des conditions plus réelles, comme si on était en train de rouler dans une randonnée et puis qu'on rencontrait d'un coup cette difficulté technique pour qu'il s'exerce à avoir les bons réflexes. Pour exercer le métier de moniteur-monitrice de VTT, il faut être pédagogue, il faut aimer retranscrire les compétences, les expliquer, passer du temps avec la personne sur un point précis. Il faut aussi avoir un bon relationnel, c'est un métier dans lequel on fait beaucoup de rencontres. C'est important d'avoir une condition physique, parce qu'on passe nos journées sur le vélo, en extérieur, parfois avec des météos difficiles. Et puis pour finir, il faut être assez débrouillard pour être capable de s'adapter aux casses de matériel, aux chutes qui nécessitent des secours, à l'adaptation d'un itinéraire à cause de la météo. Les moments où les personnes sont disponibles pour pratiquer le vélo, c'est souvent les week-ends, c'est souvent les soirées, c'est souvent pendant les vacances scolaires. Ce qui fait qu'en tant que moniteur, monitrice de VTT, on a du travail plutôt dans ces périodes-là. Dans le sud de la France, où les saisons sont clémentes, les moniteurs arrivent à travailler à l'année. Il y a des régions où il fait un peu plus froid l'hiver, où effectivement certains moniteurs ont une activité complémentaire. Mais même dans ces régions-là, des pratiques se développent, comme le fat bike, le VTT sur neige, qui permettent maintenant de travailler de plus en plus longtemps dans l'année en tant que moniteur, monitrice de VTT. Pour ma part, en plus de mon activité de monitrice indépendante, je suis formatrice à l'Institut de formation du vélo à Voiron, et donc je vis de deux activités. C'est un métier qui est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à prendre des cours, à avoir un suivi, à progresser, qui s'intéressent à la partie plus technique donc du vélo. Et vraiment, c'est un métier dans lequel il y a du travail.
Oh, waouh! Donc on vient de découvrir le métier d'éducateur sportif avec moniteur de VTT, éducateur en VTT. Voilà, monitrice de VTT, ouais, je dis éducateur, mais je mélange un peu les mots. Ensuite, éducation et petite enfance, donc ONICEP, éducation, petite enfance, hop, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc c'est un CAP, accompagnement éducatif en petite enfance, AEPE. Après, il y a d'autres métiers liés à la petite enfance, hein, mais je prends celui-là avec ce CAP-là, pas de vidéo, donc je pense que je vais voir autre chose. Donc le CAP est un diplôme professionnel national délivré par le ministère de l'Éducation nationale. Il se prépare en 2 ans après la troisième, sous statut scolaire ou apprentissage. Donc là, j'ai pas de vidéo. Ah, mais j'ai pas de vidéo, donc on va faire comme tout à l'heure pour le droit et finances, c'est moi qui lis, et après on passe à la suivante. Donc le secteur de la petite enfance recrute assistant maternel, auxiliaire de puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, garde d'enfants à domicile, puériculteur, autant de professionnels au service de l'accueil et de la santé des enfants de 0 à 3 mois. Donc vous avez des métiers et des diplômes. Donc les métiers assistant maternel, assistante maternelle, auxiliaire de puéricultrice, éducateur, éducatrice de jeunes enfants, puériculteur, puéricultrice. Donc je vois au niveau de assistant maternel... Ouais, on écoute la petite vidéo assistante maternelle. C'est parti.
Je m'appelle Anissé, je suis assistante maternelle, j'ai 32 ans. Je travaille à mon domicile, j'accueille 3 enfants. Je suis salariée de la mairie depuis 2007. Mon métier consiste à accueillir les enfants, à leur prodiguer les soins, toilettes, couchage, habillage. Ensuite, j'ai un rôle de veiller sur eux. En maternant, sans jamais prendre la place des parents.
Tu vas refaire un petit dodo.
Je suis autonome dans l'organisation de ma journée, dans l'organisation des jeux, des temps libres, des temps de repos, tout en respectant le rythme des enfants. Je suis rattachée à la crèche familiale municipale et c'est la directrice de la crèche qui attribue les places selon la liste d'attente.
Clochette ne s'en doutait pas, mais Terrence, l'homme hirondelle, l'aimait.
La crèche familiale qui m'emploie compte une vingtaine d'assistantes maternelles. Dans les qualités requises pour être assistante maternelle, déjà aimer travailler à domicile, aimer travailler avec les enfants, avoir de la patience, de la douceur et avoir un esprit créatif pour proposer des activités aux enfants, avoir une maison soignée, bien entretenue, être attentive aux soins qu'on prodigue aux enfants, des heures régulières pour le change et pour des petites toilettes, nettoyer le visage, leur apprendre à se laver les mains régulièrement. Les principales contraintes quand on est assistante maternelle, c'est surtout les horaires. Une autre difficulté, c'est le fait que le métier d'assistante maternelle peut empiéter sur la vie de famille, le fait qu'il n'y ait pas de séparation entre le lieu de vie et le lieu d'exercice. Ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est le contact avec les enfants, de voir leur évolution, de les voir grandir, de voir l'éveil qu'ils ont, de voir tous les progrès qu'ils font. Pour être assistante maternelle, j'ai suivi une formation initiale qui dure 3 semaines, qui comprend un volet théorique, donc nous sensibiliser aux besoins de l'enfant, besoins moteurs, besoins affectifs. Également un côté pratique, donc qui concerne la prise des repas, les soins et les jeux d'éveil. Maintenant que j'ai eu mon CAP Petite Enfance, je suis en validation des acquis professionnels pour obtenir le diplôme d'auxiliaire de puériculture afin d'intégrer une crèche.
Ok, donc nous avons déjà vu agriculture, artiste, bâtiment, urbanisme, bien-être, esthétique, droit, finance, éducateur sportif et on vient de voir éducation à la petite enfance. Donc, entretien. ONICEP, je mets métier de l'entretien. C'est les femmes de ménage et tout le reste. Hygiène. Donc, ça s'appelle agent de propriété et d'hygiène. On s'écoute ça tranquillement. Donc, l'agente ou l'agent de propriété et d'hygiène effectue l'entretien courant dans les bureaux, les immeubles, les commerces, les usines, les écoles, les trains, les aéroports, etc. Un métier parfois boudé, mais qui offre pourtant des débouchés importants. Salaire débutant, le SMIC à 1 767 €. Ça commence à ce niveau. Allez, on écoute ça. Métier animé, agent, agente de propreté et d'hygiène.
Que font les agents et agentes de propreté et d'hygiène? On dépoussière. Nettoyer, balayer, astiquer, carreaux, bureaux ou centres commerciaux, ces professionnels sont multitâches. Ces techniciens peuvent se spécialiser en nettoyage hospitalier, en ultra-propreté ou en petite maintenance. Pour exercer ce métier, il faut faire preuve de rigueur, minutie, amabilité et discrétion. Tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, ces spécialistes brillent par leur polyvalence. En fonction des actions de nettoyage à réaliser, on utilise différents types de produits, de matériel et de machines adaptées. Ces professionnels de la propreté et de l'hygiène travaillent dans des entreprises privées de nettoyage ou pour des collectivités. Ce métier peut s'effectuer à temps partiel, parfois tôt le matin ou tard le soir. Le salaire de début est le SMIC. Après quelques années d'expérience, on peut devenir responsable d'une équipe ou créer sa propre entreprise de nettoyage. Pour se former à ce métier en CFA ou en lycée professionnel, on peut préparer un CAP, un bac professionnel ou un BTS. D'autres qualifications sont possibles en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.
Et voilà, on vient de voir les métiers d'entretien. Donc ici, l'intervenant sera quelqu'un de la CTG, je pense. Ensuite, on avait formation universitaire, information. Donc les métiers de l'information, ONICEP, information. On écoute ça. Hop, métier de l'information, j'ai mis juste information, métier de l'information, voilà. Donc les métiers de l'information et de la communication, on écoute ça, je dis ça, c'est la deuxième fois que je le dis. Hein. Collecter les informations, les trier, les diffuser, c'est le rôle du journaliste ou du documentaliste. Le chargé de com, comme le graphiste, cherche à faire passer un message. L'attaché de presse et le chef de projet événementiel sont eux du côté de la promotion. Ce nouveau titre de collection Parcours vous permet de connaître les métiers de l'information communication et de construire votre projet d'études, témoignages et conseils à l'appui. Donc pas de vidéo, mais c'est une grosse brochure. Les métiers, les outils pour construire son projet dans la communication. Hop là. Donc on va faire un peu simple. On dirait que ça vous suffit. Hein. Les métiers de l'information et de la communication, c'est vaste. Hein. Journaliste ou documentaliste. Hein. Donc ce que je fais, je mets juste Onicep journaliste. Comme ça, on va avoir une vidéo sur les journalistes. Si ça suscite des vocations, ce sera déjà ça de prix. Hein. Hop. Ok, 3 ans pour préparer le BUT, hein, quand même, hein, c'est l'étude ça. Ça commence quand même au SMIC aussi. Hein. Donc JRI, journaliste, reporter d'image, web rédacteur, présentateur radio ou TV, le métier de journaliste recouvre des réalités très diverses. Mais quel que soit le média, papier ou web, cette profession exigeante reste difficile d'accès. Allez, on écoute un métier de journaliste présentateur. La vidéo dure 3 minutes.
Je m'appelle Julien Andy, je suis journaliste présentateur dans une chaîne de télévision locale, donc à La Réunion. Ça consiste à informer donc, la population réunionnaise et mon métier plus particulièrement, c'est de présenter le journal donc, sur une chaîne d'information. J'arrive à la rédaction, il est environ 7h15, 7h20. Donc là, je déroche, on appelle ça dérocher le journal de TF1, donc le 20h de la veille. Donc je décrypte en gros leur journal en écrivant leur conducteur. Ce genre de sujet, par exemple, c'est un sujet, on voit les enquêteurs donc, de l'OMS qui retournent à Wuhan. C'est typiquement le type de sujet que je vais récupérer bon, pour mettre dans le journal. Et ensuite, donc là, du coup, je m'informe. En fait, donc là, je lis les journaux locaux, donc la presse papier. Je note les sujets donc, qu'on peut faire dans la journée, les infos qui sont intéressantes à ne pas manquer. On n'a pas traité hier le cluster, Antoine, en bref. Hein. Donc là, du coup, là, c'était la pré-conf de rédaction. Donc là, c'est les présentateurs et les chefs en gros du journal qui se réunissent déjà pour anticiper l'actu et avant de faire la vraie conf de rédaction donc avec tous les journalistes.
Donc on dessine un petit peu déjà de ce qu'il y aura dans le JT du midi et du soir.
On part en direct dans l'Ouest à la case OT. Je vire la ligne ReaxOM, du coup on ne fait pas ça. On chronique avec Amandine okay, sur ce qui change le fait divers. Ça fait une petite logique de bloc avec une. Du coup j'enlève l'info de prix des carburants, elle le mettra dans sa chronique.
Ensuite, une fois qu'on a déterminé un petit peu les angles des sujets, on a la grande conférence de rédaction avec tous les journalistes qui là, ensuite donc, proposent leurs sujets. Et en fonction de leurs propositions, on ajuste en fait avec ce que nous on avait prévu. Et ensuite, ben voilà, on envoie les équipes sur le terrain. Une fois qu'eux ils partent sur le terrain, moi je retourne donc à la rédaction donc pour dérocher le LCI du matin. Et ensuite, je suis avec la chef d'édition du 12h30. Et là, on met ensemble en place le conducteur du journal. Donc c'est ce qui va être la trame de l'édition du midi.
Alors là, on démarre avec la chaleur travailleur de l'extrême, chronique météo, direct l'aide quinquina. On met un petit off avant des.
Et bien moi ensuite, ben, j'écris les lancements. En fait, je commence donc par écrire le national et l'international, vu que j'ai déjà les reportages qui sont là. Et ensuite, j'attends que les journalistes locaux rentrent avec qui viennent me donner les éléments de lancement. Donc ils me disent, bah, aujourd'hui, j'étais à tel endroit, j'ai vu ça. Moi, je prends tous ces éléments-là et je lance le sujet qu'ils vont faire pour le journal. Et je présente donc le JT donc à 12h30.
Il est 12h30 sur Antenne Réunion.
Bonjour et bienvenue à tous à la une de l'actualité ce mardi. Pour accéder donc à la licence information et communication, il fallait avoir un bac plus 2. Donc j'ai fait 2 années d'histoire géo et ensuite, une fois que j'ai mon bac plus 2, je suis entré en licence. Et donc c'était sur 3 années la formation ici à La Réunion. Et ensuite, ben, je suis passé la licence 3, le master 1 et le master 2. Bon appétit si vous êtes à table. Et moi, je vous dis à demain, 12h30. J'ai 10 ans d'ancienneté hein, quand on compte mes années de pige. J'ai démarré en tant que fait diversier. Pendant 1 an et demi, j'ai été joker. Donc, je remplaçais les présentateurs titulaires pendant les vacances. Ça reste un beau parcours. Pour moi, il n'est pas terminé, mais je pense que c'est quand même un beau parcours. Là, j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce que je fais. Je me sens bien là où je suis. Mais c'est vrai que j'ai toujours dans le coin de ma tête, si un jour il y a une opportunité qui se présente, c'est vrai que. C'est mon objectif un jour d'essayer d'atteindre une chaîne nationale.
Génial. Bah après, moi aussi, c'est un des métiers que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune. C'est un peu pour ça que je suis à la radio du collège. Hein. C'est vrai que c'est un métier captivant. Journaliste, on transmet l'information aux autres. Le savoir, c'est le pouvoir. Ensuite, les métiers de la bouche. Donc, Onicep, métier de la bouche. Donc, ça va être des trucs de restauration, ça. métiers de bouche, pas de la bouche, les métiers de bouche, c'est pas dentiste, hein. Donc les métiers du goût et des saveurs, c'est ça le vrai thème propre, pour être précis. Donc boulanger, boucher, cuisinier, au pays de la gastronomie, les métiers de bouche et de la restauration attirent de nombreux candidats. Bonne nouvelle, grâce au nouvel élan du commerce de proximité ou à l'attrait pour le bien manger, il existe des opportunités. Et ça depuis le Covid, il y a plein de métiers de bouche qui sont développés, hein, puisqu'on essaie de se croiser le moins de nos jours, c'est pas forcément positif. Donc ces métiers passion existent toutefois, disponibilité, savoir-faire et motivation. Découvrez-les dans notre édition, la collection Parcours. Donc ça c'est encore une collection, donc pas de vidéo à proposer. Une enquête de terrain. Comment devient-on pâtissier ou boulanger? Quelles sont les formations accessibles après la troisième? Bac professionnel et brevet professionnel, quelle différence? Un diplôme est-il indispensable pour exercer dans la restauration? L'apprentissage constitue-t-il un passage obligé dans ce secteur? Quelles qualités faut-il pour travailler dans les métiers de la bouche? Peut-on ouvrir sa boutique lorsqu'on débute dans le métier? J'ai oublié de prendre de l'eau, c'est pour ça que j'ai la gorge asséchée. Donc pour répondre à toutes ces questions transmises par les jeunes et leurs familles au service d'information personnalisée de l'UNICEF, vous avez le lien Mon Orientation en ligne pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et sinon, venez le vendredi au Forum des métiers. On aura des gens qui travaillent dans le métier de la bouche pour expliquer à nos élèves en quoi cela consiste. Allez, c'est fait, adjugé vendu. Donc après venait Pôle emploi, et Pôle emploi j'ai dit c'est UCAN. Donc si je reviens sur les présentations de UCAN, donc je rappelle que UCAN présentait les secteurs des métiers en tension en 2023, sécurité, transport logistique, hôtellerie, café, restauration, numérique, BTP, santé sociale et industrie. Donc en échange vous aurez des mini-capsules vidéo à écouter, donc les groupes sont prévus pour passer en salle SECPA 2, hein. Donc de toute façon sur leur planning ils iront voir des capsules, ils écouteront à leur rythme, voilà. Ensuite, santé sociale, donc ONICEP, santé sociale, c'est bon, il ne reste plus que 5 métiers, c'est bon, ça le fait, on a fait le plus dur. Accrochez-vous, ne tombez pas du hamac. Ok, donc j'ai cliqué santé sociale ONICEP et j'arrive sur documentation ONICEP, donc ça, ça sent aussi la rubrique et pas le métier. Donc, donc dans santé sociale, on trouve travailler auprès des enfants, les métiers du paramédical, les métiers du médical, les métiers de l'industrie du médicament, les métiers des entreprises, du dispositif médical et les métiers du social. Ça fait beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment choisir. On peut pas être sur tout. Et de toute façon, le but, c'est de donner envie aux enfants de s'intéresser, aux enfants, aux élèves de s'intéresser sur les métiers possibles. Ouais. Donc, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la petite enfance, ça rentre aussi dans le social, hein. Voilà. Donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps dessus. Je vous invite à vous rapprocher vraiment du site ONICEP. Il est bien fait. Il y a plein de ressources. Ensuite, secrétariat, les métiers du secrétariat, donc ONICEP, secrétariat, hop, ça, il y a moyen qu'il y ait une petite vidéo là, donc le métier de secrétaire, avec le sourire, le secrétaire jongle avec le téléphone, la souris de l'ordinateur et de nombreux dossiers, c'est notre monsieur Barlagne quoi, qu'il exerce dans une PME, petite ou moyenne entreprise, dans un service technique ou chez un avocat, sa discrétion et ses initiatives sont appréciées. Donc, on s'écoute la petite vidéo assistante de direction. Donc, une secrétaire, c'est aussi un assistant de direction. Il y a souvent un directeur quand il y a un secrétaire.
Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans, je suis assistante de direction. Et mon travail consiste à gérer toutes les opérations administratives quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de la direction générale.
Bonjour Eric.
Salut.
Je travaille en direct avec le directeur général. Je suis chargée de gérer son emploi du temps, de gérer ses déplacements et faciliter son quotidien. De faire remonter les informations pour qu'il puisse derrière prendre plus facilement les décisions. Il faut aimer rencontrer les gens, il faut avoir un réel sens du service, être rigoureuse, très organisée, voilà. et également avoir la capacité à hiérarchiser l'urgence des demandes.
Bonne journée.
Bonne journée.
Il faut avoir un réel sens des responsabilités, être disponible, à l'écoute des autres et très attentif pour pouvoir faire le suivi de dossiers parfois complexes. Il faut faire preuve aussi également de discrétion puisqu'on traite des dossiers confidentiels. On a besoin au quotidien d'être très, très réactif et efficace. Faire ce travail, c'est un BTS, assistante de direction. Mais j'ai eu plusieurs expériences après mon BTS et c'est vrai que je me cherchais un petit peu et j'ai eu cette opportunité de rentrer dans une grande entreprise en tant qu'assistante de direction et c'est vrai que c'est un travail qui me correspond tout à fait. Fichier avec les estimés, j'essaye surtout d'apprendre au quotidien pour pouvoir être le plus efficace possible dans mon travail, dans le suivi des dossiers. Et après, effectivement, s'il y a des opportunités dans l'entreprise, ça m'intéresse.
Donc, vous venez de découvrir le métier de secrétaire, donc assistant de direction, donc secrétaire. Allez, sécurité civile, ONICEP, sécurité civile. Non, je pense que c'est tout ce qui est gardiennage, vigile et tout ça. Parce que sinon, on serait sécurité militaire. Donc, préparation au concours de sécurité civile. C'est pas tant ça. Quels sont les métiers de la sécurité? Voilà. Quels sont les 6 métiers de la protection civile? Donc, pisteur, secouriste, maître chien, chef d'agré, spécialiste sécurité civile, artificier des mineurs, pompier technicien, équipier. Ouais, donc, je pense que ce seront les pompiers qui vont intervenir ici. Donc, je vais taper métier de pompier après, parce que j'ai pas de vidéo. On me dit les formations complémentaires d'initiative locale permettent d'acquérir une qualification spécifique à un domaine professionnel en rapport avec le marché de l'emploi. Donc je tape le métier de pompier. Donc ONICEP, pompier. Donc je rappelle le concept de cette émission, c'est d'avoir un catalogue de présentation audio pour que les élèves qui souhaitent se remettre dans l'ambiance de l'orientation puissent, après le forum des métiers, continuer à s'interroger sur les différents métiers pour lesquels la société estime qu'ils ont leur part à donner pour que le pays fonctionne. Chacun est important pour le fonctionnement de toute la société, quoi. Toute la société, toute la cité. Allez, incendie, accident de la route, inondation, le sapeur-pompier ou la sapeuse-pompier, on ne dit pas la sapeur-pompier, on dit la sapeuse-pompière, et sur tous les fronts. Volontaire, de profession ou militaire, il ou elle exerce un métier à risque qui demande une solide vocation. Donc, salaire débutant un peu plus que le SMIC, hein, 3 euros de plus que le SMIC. Donc, 1770 euros, hein. je taquine. Donc le métier, toujours là pour porter secours, le sapeur-pompier ou la sapeuse-pompière administre les premiers soins aux accidentés de la route, aux victimes de noyades, de brûlures. Il ou elle éteint les incendies de forêt ou d'immeubles, évacue les personnes en cas d'inondation, d'explosion, de tremblement de terre. Il ou elle résout certains problèmes domestiques, animal coincé sur un toit ou fuite de gaz. Allez, on s'écoute la vidéo sapeur-pompier-plongeur. Wow, au particulier ça, le plongeur en Guyane, ça va pas être très utile tout ça.
Je m'appelle Christophe Marin-Talon, je suis sapeur-pompier plongeur dans le département du Gard et je suis aussi chef de centre de la caserne de Marguerite dans le département du Gard. Notre métier consiste en porter assistance aux personnes qui sont déclarées disparues, par exemple, ou aller rechercher des personnes qui seraient en détresse, notamment dans la partie spéléo ou alors éventuellement en mer, dans des embarcations, par exemple. C'est un métier très intéressant, c'est même une spécialité de la profession. On a un cursus très spécifique puisqu'on passe en...
Il a dit c'est très spécifique, donc vraiment pour nos élèves, je pense pas que ce soit... On habitera en bord de mer comme en Guadeloupe, etc., je dis pas, hein, mais là, ici, non. On va vraiment prendre le vrai métier de sapeur-pompier, celui qui éteint le feu chez vous quand ça brûle. Hein. Allez, bonne écoute. Il essaie de me faire mentir là. Il veut pas lancer. En patience, on lui fait confiance. Il va lancer. Le temps court, mon ami. Le temps court. Métier de sapeur-pompier. Pour une fois qu'il y a un truc intéressant, ça me stresse. Je dis ça, je meuble le temps en fait. Hein. C'est pour pas que vous ayez du blanc en pensant que la vidéo ne fonctionne pas. La vidéo ne fonctionne pas, que le direct ne passe pas. Ça marche, hein. Ça arrive.
Sur le mercier, attends. Sapeur Virginie Pigeon.
Présente. Je suis sapeur-pompier professionnel dans l'Essonne. Ça va faire un an que je suis affecté dans cette caserne et j'ai commencé la formation en 2008.
On est connaissance de vos piquets, passez une bonne journée.
On prend notre garde à 7h30. Après, on a un planning prédéfini. En général, le matin, donc, on fait les vérifications des engins. Ensuite, on part au sport. On rentre, on fait une manœuvre, soit incendie, soit secouriste. L'après-midi, on se rassemble. Et selon la manœuvre qu'on a fait le matin, bah, on fait l'autre. Ensuite, on fait un sport collectif ou individuel. Et à 17h, 17h30, on est libre, bien sûr, sans oublier les tiges, les travaux d'intérêt généraux et le travail dans les services. Les missions principales du pompier, bah, ça va être le secours à victimes avec les véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Que ce soit pour personnes blessées, personnes malades, aider des personnes âgées à se relever, fractures, luxations.
Tu fais une subluxation de la mâchoire parce qu'il y a un traumatisme.
Ensuite, il y a le côté incendie qui est un petit pourcentage par rapport au reste. Incendie qu'avec les gros camions, les FPT, fourgons, pompes, tonnes. J'ai commencé par passer l'attestation de formation au premier secours, donc la FPS. Ensuite, ça m'a donné envie de continuer sur la formation au premier secours en équipe, qui m'a donné envie d'entrer pompier volontaire. Et de là, j'ai passé mon concours professionnel et suivi la formation professionnelle.
Par contre, là, c'est la ligne médiane et on vient toujours vers soi.
Donc, on demande aux pompiers d'être dynamiques, motivés et persévérants dans le travail qu'on doit fournir. Persévérant, surtout le côté physique, il ne faut jamais abandonner. C'est l'entraînement qui finit par payer de toute façon. En tant que personnel féminin, il faut faire au mieux pour que ça ne se voie pas en fait. C'est qu'on essaye de faire tout ce que les autres font. On doit être capable de faire tout ce qu'ils font. Il y a des interventions comme avec les personnes âgées ou les femmes enceintes que la victime apprécie que ce soit un personnel féminin. Et les collègues aussi apprécient qu'il y ait personnel féminin dans l'équipage. Donc on demande aux pompiers d'être prêts et être capables de décaler, enfin de partir en intervention à n'importe quel moment, c'est-à-dire autant en pleine journée ou en pleine nuit, et être capable d'effectuer la mission demandée. Il faut avoir envie d'aller aider les gens, mais il n'y a pas que des mauvais moments, bien heureusement. C'est rare aussi, mais ça m'est arrivé d'assister à un accouchement. Ça, je pense que c'est la plus belle reconnaissance, on va dire, dans ce métier. Voilà.
Et oui, le métier de pompier. Dans toutes les sociétés, il faut des gens pour aller au secours des autres. Allez, plus que deux formations à vous présenter. Donc, tourisme. Il y avait aussi métier du territoire. Mais allez, j'ai oublié de mettre. Allez, ONICEP, métier du territoire. Métier du territoire. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un bac pro service aux personnes et au territoire. Le SAPAT. Ok, d'accord, c'est ça. Donc, je passe dessus. Adjugez-moi. Ensuite, métier du tourisme. Métier du tourisme. Et voilà, on approche. Donc je tape tourisme, on me dit. Première destination touristique mondiale, la France compte un grand nombre d'emplois liés au tourisme. Poids lourd de l'économie, ce secteur ouvre donc de nombreuses opportunités à ses diplômés. Donc quels sont les métiers qui sont attenants au tourisme ? Concevoir un circuit et le vendre, guider des visiteurs dans un musée, gérer un village de vacances, y organiser des animations, promouvoir une ville ou une région. Les métiers du tourisme offrent une grande variété de missions. Il y a une vidéo sur gardien de refuge. Ouais. Est-ce qu'on se fait ça ? On se fait ça, ouais. Bah ici, autour de nous, à Patou, on peut être très très bien dans le tourisme en faisant découvrir déjà les anciennes traces des vestiges de ce qu'il y avait dans les parages il y a 100 ans ou il y a 150 ans, ou tout simplement visiter la mangrove, les sceaux et tout le ça et tout le reste. Hein. Donc il y a de quoi faire. Hein. C'est pas des métiers déconnectés de notre réalité ici à Patou.
Eh bien moi je m'appelle Clément Vazette, j'ai 33 ans, je suis gardien de refuge depuis 4 saisons.
Moi c'est Carole, j'ai 31 ans, donc je suis gardienne du refuge de Combadame. Donc je fais ça depuis 2 saisons.
Le métier de gardien de refuge, c'est d'accueillir, de conseiller et de servir les randonneurs qui viennent chez nous en fait. Une journée type, donc on fait les petits déjeuners, service de midi à 14h, repas du soir, en accueillant aussi tout au long de la journée certains randonneurs qui viennent juste prendre un café ou autre.
Du coup, dans nos activités jalonnent un peu notre journée, donc on a beaucoup de cuisine. Mais on a aussi pas mal de ménage dans les dortoirs, dans les salles communes aussi, les sanitaires. Il faut faire la vaisselle. Et la vaisselle, on n'a pas de la vaisselle, on fait tout à la main. Donc ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis après, on accueille les gens tout au long de la journée en service de restauration. Et puis on les conseille aussi sur les randonnées à faire autour. Du coup, notre rôle aussi, c'est vraiment de les conseiller, de leur expliquer par où passer, les difficultés éventuelles et les mettre en garde aussi de secteurs un peu compliqués.
Là, je pense qu'il reste encore pas mal de délais.
Et souvent, en plus, le col de la Croix, c'est souvent à la, enfin, c'est à la fin où il reste plus de neige.
Et il faut être très débrouillard sur plein de petites choses, parce qu'il peut arriver que la chaudière tombe en panne, que le volet se dégonde, que la porte se casse, et qu'il faille bricoler avec les moyens du bord. Et sinon aussi ce qu'on a oublié, le côté sportif. Parce que quand on fait des ravitaillements avec 20 kg dans le sac à dos, il faut quand même être un peu sportif, quoi. Le gros avantage de ce métier-là, c'est d'être dans un cadre de travail qui est fantastique. De croiser beaucoup de monde et de croiser souvent des gens qui sont très sympas et qui sont curieux aussi de ce qu'on fait. Et du coup, qu'il y ait des échanges qui soient intéressants. Et après, sinon, dans les désavantages de ce métier-là...
Le mauvais temps.
Le mauvais temps, quand il est là, c'est long, ouais. On voit pas beaucoup de monde et puis les journées sont longues. Et puis la fatigue aussi, parce que c'est vrai que c'est intense comme rythme. On fait des fois des journées où on commence le matin à 6h30 et le soir on finit, il est 23h et puis on n'a pas forcément réussi à prendre beaucoup de pauses. Être gardien de refuge, c'est aussi être saisonnier. Donc être saisonnier, bah, c'est avoir différents travails dans l'année. Bien souvent, c'est un travail pendant la saison d'hiver. Et puis après, un travail pendant la saison d'été, donc en tant que gardien. Et ça, ça varie beaucoup en fonction des secteurs. Nous, on est ouvert que 3 mois, mais il y a des refuges qui sont ouverts aussi bien plus longtemps. On aime se dire que quand quelqu'un part et qu'il est satisfait du cadre, de ce qu'il a mangé, de l'accueil, c'est ça qui valorise en fait et qui donne un sens à tout ce qu'on fait, quoi.
C'est ça. Qui se disent, ben, on a passé un bon moment. Ouais. C'est hyper important.
Allez, plus qu'un métier et je vous libère. Donc, il nous reste transport et logistique. Donc, ça aussi, c'est un secteur qui recrute à mort en Guyane. Donc, transport et logistique. Vous allez me dire, mais pourquoi ça recrute à mort? Ben, déjà, à l'époque, quand il y avait le CSG, bon, il y a toujours le CSG, mais il lance plus de fusées ces temps-ci. Donc, on est en droit de douter. Donc, déjà, pour transporter tout le matériel, tout ce qui est. Ouais, donc matériel de fusée, après matériel de construction, quoi d'autre, transport, ouais, transport de personnes, transport de marchandises, ouais, y a de quoi faire. Hein, c'est pas, on est dans un département dynamique, c'est pas comme si on était à la crise, à pas d'activité. Hein. Donc s'il y a bien un endroit où ça recrute dans transport logistique et BTP, c'est bien la Guyane. Hein. Le transport et la logistique sont des activités étroitement liées qui emploient plus d'un million de professionnels. Il faut savoir qu'il y a 1 million d'enseignants en France, donc c'est un secteur qui emploie autant qu'il y a d'enseignants dans le pays. Hein. Les métiers évoluent pour répondre à la mondialisation des échanges, à l'informatisation des process, les process donc les procédures, aux nouveaux modes de consommation et aux exigences environnementales. Si les conducteurs et les manutentionnaires sont toujours très nombreux, le marché de l'emploi est favorable aux jeunes diplômés à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc je clique juste sur formation pour voir ce qu'il y a comme formation. Donc du CAP au diplôme d'ingénieur en passant par les bacs professionnels, BTS, BUT, licence et écoles spécialisées, les formations du transport et de la logistique sont nombreuses. Passage en revue des parcours possibles selon le domaine d'activité. Comme c'est vraiment le truc qui est vraiment intéressant. Allez, on s'écoute ça, logistique, transport et formation. Et après, je finis l'émission avec vous. Hein. Bonne écoute.
Bienvenue en CAP conducteur routier et marchandises.
Ici, on est sur le plateau pour apprendre à manœuvrer.
En CAP, on apprend à conduire différents véhicules. D'abord la voiture, ensuite les porteurs et on finit par les semi-remorques. On fait par exemple des parcours en marche arrière, des mises à quai, de l'attelage et d'ételage.
Dans ce CAP, si l'apprentissage de la conduite est essentiel, d'autres compétences sont en jeu. On pratique la relation client, la manutention en chargeant et en déchargeant les véhicules. On pratique la conduite respectueuse en étant attentif à l'environnement et aux règles de sécurité. C'est le cas lors de l'attelage et du dételage des remorques.
Pour accrocher le camion, il faut vérifier la compatibilité du camion avec la remorque. On doit être capable de vérifier l'état du véhicule et de faire des petites réparations. Pendant la formation, on passe le code parmi B, C et CE.
Les élèves apprennent à préparer un itinéraire à partir de cartes routières et d'un GPS. Ils doivent être capables de calculer les distances précises et le temps de trajet, pause incluse.
On a reçu des voitures, c'est bon, il n'y a plus qu'à faire l'itinéraire. On va à Paris. On va faire Rennes-Laval. Après, tu vas faire Laval-Le Mans. Et Chartres Paris avec 83. Et après, on va calculer tout ça. 4h50 de conduite.
On part à quelle heure?
7h30, je pense que ça c'est tôt.
Dans ce métier, on conduit toute la journée. C'est primordial d'être toujours attentif aux règles de sécurité, concentré sur sa conduite et vigilant.
Donc après le CAP, nos conducteurs routiers peuvent soit partir dans la vie active. Certains d'entre eux choisissent de poursuivre leurs études et s'orienter vers un bac pro, soit dans le transport logistique ou alors en maintenance prévoie.
Oh là là, c'est des métiers qui me font rêver. Et voilà, donc vous aviez une sorte d'éventail des formations qui seront proposées à nos élèves, donc des informations sur l'orientation proposées à nos élèves. Donc avant de se séparer, donc on fait un récap, un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. Donc nous proposons au Forum des métiers édition 2, donc de 2024, au Collège Maïa Patou en Guyane française. Donc pour nos élèves, donc leurs plannings sont déjà faits, hein, c'est-à-dire que les élèves, il n'y a pas de doute, ils ne se perdent pas en fait. Hein, ils ont un emploi du temps comme un emploi du temps d'élève, hein, où ils ont sur tel horaire, ils sont dans telle salle, avec tel projet, tel établissement. Bah, effectivement, c'est réparti particulièrement. Il y a trois groupes de passage qui vont passer alternativement pour aller voir d'abord les lycées et après voir les différents ateliers proposés. Et après, pendant que ce groupe-là qui a vu les lycées ira maintenant voir les ateliers, ceux qui voyaient les ateliers vont remonter pour aller voir les lycées, etc. Donc ça alternait. Hein. Donc si j'ai bien compris ce qui se trame, eh bien, au niveau des salles banalisées, ce sont les lycées et quelques formations. Et dans le bâtiment principal, ben, y a des pôles de formation. Donc on vous propose donc ce vendredi agriculture, le métier d'artiste, bâtiment urbanisme, bien-être esthétique, droit finance, éducateur sportif, éducation petite enfance, entretien, pour les formations universitaires, ils sont excusés, ils ne seront pas là, les métiers de l'information, métier de la bouche, et après les capsules de UCAN pour voir les différents métiers, et santé sociale, métier en tension je précise, hein, santé sociale, secrétariat, sécurité civile, territoire, et métiers du tourisme et, comme on vient de finir, les métiers du transport et de la logistique. Donc nous espérons que toutes ces informations mises à disposition de nos élèves leur permettront de mieux dessiner leur parcours de futurs citoyens et trouver leur place dans la société de demain. Vous étiez bien sur la radio du Collège Maillet.castor.fm à Patou en Guyane française, la dernière commune reliée par la route. C'était Didier Chacal, votre humble serviteur. Rendez-vous le mardi prochain avec Ilaina et Angélis pour Les Deux Mousquetaires, l'émission Les Deux Mousquetaires. Jean-Éric Dauphin, au revoir.